Moi, je suis un peu du chasseur oriental. J'ai réussi totalement cette
question. Moi, j'ai été de Croatie au Saint-Orage. En combinant les deux, la question est précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, c'est Mathieu, votre fidélité à Radio Okapi et qui vous propose parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Le franc congolais continue de connaître une dépréciation sur les marchés d'échange en République démocratique du Congo. La monnaie nationale n'est toujours pas en parfaite santé face au dollar américain et aux autres devises étrangères. La parité franc congolais dollar varie selon qu'on est à la cité ou au centre-ville. Mais à la vente, c'est-à-dire lorsque les cambistes vous vendent la devise, le taux est déjà au-delà de 1000 francs congolais. Certains observateurs redoutent que cette situation ait des retombées négatives sur le pouvoir d'achat et le panier de la ménagère parce que les salaires des fonctionnaires restent inchangés. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiogravu.net, vous pouvez nous rejoindre et nous appeler au 081 890 7315 pour votre intervention en direct. Julie Fessabungonda est au standard. Alain Goy à la mise en onde. Pierrot et Lamégie à la réalisation de ce programme. Coordonné et présenté par J.R. Lungembo, Luabung Angie, sous la supervision de Martin Sebouzangue. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 7315 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
En économie, la stabilité du taux d'échange, qui est une situation d'équilibre, la dépréciation et l'appréciation forte d'une monnaie nationale par rapport aux devises étrangères constituent des chocs des citoyens, des déséquilibres sur le marché d'échange. Alors, selon certaines analyses économiques, ces situations de déséquilibre représentent des écarts par rapport à l'objectif, autant qu'elles ne sont pas souhaitables au sein d'une économie. Ces déséquilibres entraînent donc des répercussions négatives à la fois sur l'évolution de la conjoncture que sur la croissance économique inclusive. Justement, depuis plus d'un mois maintenant, comme je l'ai dit, la monnaie congolaise connaît cette forte dépréciation par rapport aux devises étrangères. Plusieurs analyses ont en effet donné de la voix dans les différents salons économiques, à l'Assemblée nationale, au Sénat ou encore ailleurs, pour fustiger la politique économique imprimée par le gouvernement et soulever plusieurs questions, entre autres la principale, à quoi serait due cette dépréciation dès lors que la stabilité du cadre macroéconomique est toujours affirmée par la troïka stratégique du gouvernement congolais. Rudy, vous êtes à Lubumbashi, vous nous avez rejoint et vous avez le privilège de lancer le débat. Vous êtes avec nous, bonjour Rudy et bienvenue.
Bonjour, monsieur, bonjour.
Voilà, vous avez la chance de lancer ce débat. Quel est votre avis?
Bon, moi j'ai dit ceci sur la page Facebook de l'émission. J'ai dit que si la... Aujourd'hui, je peux dire que la... c'est vraiment pitié pour les fonctionnaires de l'État. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on a... quand on a tous les marchés d'échange, les devises et notre monnaie locale, là, je dis, il doit y avoir équilibre entre les devises et la monnaie locale. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que la monnaie locale est en train de déprécier. Et se déprécie. Cela veut dire que les devises sont en perte. Donc, il n'y a plus trop de devises sur le marché.
Voilà Rudy, dans votre message, vous avez eu à vous poser une question, comme l'ont fait certains analystes, où serait parti le dollar américain qui fait l'équilibre avec la masse monétaire du franc congolais. Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça, vous-même?
Oui, j'ai pu prétendre donner une réponse par rapport à ma vision. Et le fait que ici au Katanga, nous avons connu des entreprises minières qui ont claqué leurs portes. Alors, ce que fait, ils sont partis, il n'y a plus de devises qui entrent dans le trésor public. Et puis les gens ici dans les entreprises minières ont été en devises et non en monnaie locale. Alors, c'est un peu ce que j'ai pensé à ça.
Merci beaucoup Rudy d'avoir appelé. Pour vous, donc, il s'agit là simplement de l'effet de l'offre et la demande. Beaucoup de francs congolais sur les marchés d'échange, mais peu de dollars américains. Cela implique directement la hausse de taux de change. Alors, vous vous êtes posé la question dans le message que vous nous avez envoyé, où serait parti le dollar américain qui fait l'équilibre avec la masse monétaire du franc congolais. Maître Joël, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Maître Joël, est-ce que vous êtes avec nous? Voilà. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, cher Lungembo. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Vous avez suivi tout à l'heure Maître Rudy qui parlait de l'effet de l'offre et de la demande. Est-ce que vous partagez cet avis?
Je ne partage pas totalement, mais je suis partiellement d'accord avec lui. Parce que au jour d'aujourd'hui, il faut dire, hier, que la gestion congolaise est rattrapée par rapport à ce qu'on cessait de dire, qu'on ne pouvait pas gérer le pays avec autant de chiffres, lorsque ces chiffres-là n'avaient pas d'impact sur la vie sociale donc des Congolais. Aujourd'hui, cette stabilité macroéconomique, où est-ce qu'elle se trouve pour le moment? Parce que la dépréciation a pris une allure vertigineuse. Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué pour le petit peuple et aussi la situation, donc la situation qui se pose. Nous nous sommes penchés pour essayer un peu de savoir pourquoi cette situation. Voilà ce que nous avions trouvé hier. Il y a la situation politique de l'heure, hein, donc dans notre pays, qui fait à ce que la plupart des politiciens ont eu à stocker leurs dollars dans des comptes, et surtout que ces comptes-là sont des comptes étrangers. Et c'est ce qui fait qu'il y a rareté donc de dollars, et les francs congolais sont dans une situation de dépréciation. Là, c'est la première recherche que nous avions eue sur terrain. Et puis, deuxièmement, nous avions trouvé que c'est la deuxième situation, c'est la crise mondiale qui fait à ce que lorsqu'il y a cette crise qui bat son plein au niveau international, et étant donné que l'économie congolaise est totalement extravertie, et c'est cet impact-là, cette crise a des conséquences directes vis-à-vis de nous qui dépendons toujours de ces pays étrangers. Et puis, troisièmement, nos recherches ont trouvé comme impact qu'il y a eu une situation de GIAC. Hein, la situation de GIAC a aussi contribué par rapport à cette rareté des dollars américains. Et aussi, lorsque nous avions suivi sur la radio Capi, il y a certains comptes de certaines personnes qui seraient saisis, bloqués. Et ce sont ces histoires-là qui font à ce que la situation des dollars américains puisse se poser avec acuité. Maintenant, là où nous demandons ce que le gouvernement est en train de faire, c'est lorsqu'on laisse pourrir la situation. Il y a quelqu'un qui a parlé, donc les analystes économiques, qui ont essayé de parler de la situation salariale des travailleurs. Pendant que la situation est en train de pourrir, et donc le franc congolais se déprécie, mais personne ne songe pour essayer quand même de relever le salaire de tous ces fonctionnaires. Aujourd'hui, la situation est que celui qui touchait, par exemple, 50 000 francs.
Oui, à qui croire aujourd'hui? Les analystes prédisent la flambée encore, ou encore prédisent l'inflation d'ici le mois de septembre prochain. Mais de l'autre côté, il y a le gouvernement, par l'entremise de sa réunion d'Afrique stratégique, qui continue à parler de la stabilité du cadre macroéconomique pour dire que voilà, c'est une situation passagère.
Non, mais c'est ça que je vous ai dit hier, c'est tout à fait contradictoire. Donc, au jour d'aujourd'hui, si le gouvernement continue toujours à dire ça, j'irai plus loin pour dire que apparemment la population congolaise n'est pas sécurisée par le gouvernement. le gouvernement devait prendre son courage pour dire la vérité à la population congolaise que voilà, nous avons mal géré, nous nous sommes trompés, voilà, nous sommes rattrapés par la mauvaise gestion. Dire que c'est une situation passagère ici à Kananga, je peux vous dire que ça, donc nous totalisons déjà 5 mois. Est-ce que c'est ça une situation passagère? Et lorsque les analystes vous disent que nous irons jusqu'au mois de septembre, c'est ça une situation passagère? Moi, je dis tout simplement que Dieu merci, parce qu'on ne cessait de déplorer qu'on ne pouvait pas croire à ce que le gouvernement nous disait par rapport aux chiffres, et surtout avec les plébiscites et de ses partenaires internationaux. Aujourd'hui, voilà là où nous en sommes.
Oui, alors, Maître Adrien, c'est vrai, vous avez pour vous que la base, en fait, ce serait le fait d'anticipation et d'attentisme. Selon vos propos, il y a la situation politique qui, en fait, plonge les politiques dans un certain attentisme pour dire qu'on ne sait pas, l'avenir il est sombre. Pourquoi ne pas garder les devises étrangères, le stocker, ça c'est selon vous. Et vous avez également fustigé la gestion du pays avec des chiffres, dès lors que ces chiffres ne reflètent pas la réalité dans le vécu quotidien, c'est suicidaire selon vous. Alors la crise mondiale, vous l'avez également mentionné, qui n'a épargné aucune économie. Alors dès lors que notre économie est extravertie, c'est normal que nous connaissons cette situation très grave. Et vous avez terminé en ajoutant pratiquement la situation de la BIAC, où vous avez évoqué plusieurs comptes saisis et bloqués qui seraient également à la base de cette situation. Merci beaucoup, Maître Adrien, d'avoir appelé. Alain, bonjour, vous êtes à
Kinshasa.
Bonjour, Alain.
Oui, bonjour, Radio Kapi, bonjour à tout le monde.
Quel est votre avis, Alain?
Oui, moi j'estime modestement que la crise que nous traversons ne fait que nous annoncer la grande crise qui arrive. Ben, si vous lisez très bien les indications, vous allez vous rendre compte que nous essayons, dans une certaine mesure, à résoudre le problème. Malheureusement, les instruments que nous utilisons entrent en contradiction entre eux. Je prends le cas de mesure d'adjudication qui a été prise par la Banque centrale en injectant pratiquement près de 250 millions de dollars sur le marché afin de trouver le point d'équilibre. Cela n'a pas atteint les objectifs voulus par l'autorité monétaire. Dans le même temps, la récapitalisation de la BIAC n'a fait qu'augmenter la masse monétaire en fonds congolais en circulation. Nous avons atteint le 1 million pour 10 dollars, c'est-à-dire 1000 fois pour 1 dollar. Demain, nous pourrons atteindre 1050, 1100 et voire même au-delà. Ça met en mal le fonctionnement de la structure monétaire et cela est dû tout simplement par le fait que nous n'avons pas su anticiper sur la réaction du marché mondial, la réaction de la structure économique mondiale. Nous devons arriver à diversifier l'économie. On devait en principe commencer déjà depuis que nous avons enregistré les embellis économiques. Mais malheureusement, nous sommes focalisés sur le secteur minier. Cette situation a occasionné un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et cela continue par le fait que nous n'arrivons pas à donner des béquilles à notre économie. Donc, dans cette politique des tâtonnements qui n'arrive pas à réconcilier nos potentialités avec la situation du marché mondial. C'est toujours critiqué le fait qu'on met plus d'accent sur le secteur minier. C'est un secteur rentable, mais n'a pas une capacité générative d'emploi. Aujourd'hui, si nous avons mis l'accent sur l'agriculture et le tourisme, on allait plus créer des richesses et on allait plus satisfaire le besoin de la sous-région que du marché mondial.
Mmh.
Et cela allait nous permettre aussi de jubiler cette crise qui a une tendance inflationniste.
Oui, alors est-ce que vous pensez, que vous redoutez comme les autres qui craignent donc les retombées négatives sur le pouvoir d'achat et le panier de la ménagère parce que les salaires des fonctionnaires restent inchangés. Aujourd'hui, vous l'avez dit, 1 dollar à pratiquement 1000 francs congolais. Le fonctionnaire qui touchait 100 dollars lorsque la monnaie était à 90 000 francs congolais et ses salaires n'ont pas changé, on le paye en francs congolais, 90 000 francs. Déjà là, il y a un manque énorme dans l'enveloppe salariale de l'agent et fonctionnaire de l'État.
Naturellement, le fait qu'ils ont gardé leur valeur nominale c'est-à-dire la valeur nominale n'étant pas changée, eh bien, il y a une réalité qu'aujourd'hui, il est difficile pour un fonctionnaire de garder la valeur libératoire de son argent. Parce que le montant du mille qui touchait ne représente plus les 100 dollars d'aujourd'hui. Et au-delà de ça, la tendance inflationniste ne va pas suivre la proportion de l'équilibre du marché monétaire. Parce que lorsque les agents vont commencer à anticiper, les agents économiques vont commencer à anticiper sur une éventuelle crise qui s'annonce déjà, et bien on va avoir une abondance ou une augmentation abondante de la masse monétaire en fonds congolais en circulation. Et cela va pousser les agents économiques sur les fonds congolais d'injecter davantage sur le marché. Et par conséquent, les prix vont suivre. Et lorsque les prix vont suivre, étant donné que les agents de l'État sont émargés dans le budget, on ne saura pas réajuster leur salaire, on doit attendre jusqu'à ce que l'exercice c'est fini, c'est clôture, pour anticiper maintenant sur les autres crises. Donc, quelque part, ceux qui vont en pâtir par rapport à cette réalité, c'est plus les ménages et précisément les fonctionnaires. Et il y a aussi d'autres entreprises, je prends le cas de la Chine et de la Russie et d'autres, qui facturent leurs prestations en fonds congolais. Par le fait que la monnaie perd sa valeur, elles ne pouvant pas réajuster les dettes ou leur facturation, partant de ce qu'ils doivent déjà chez l'entreprise, et bien ils vont voir comme ça leur chiffre d'affaires baisser tout en gardant la même valeur nominale. Donc c'est ça en fait le grand problème. Je demande à ce que le gouvernement puisse voir le mécanisme d'adjudication, permettre à ce que nous ayons plus de devises en circulation, réduire la masse monétaire dans des grandes sommes et permettre à ce qu'il y ait un équilibre. Même que cet équilibre sera facile, mais au moins que nous ayons pendant quelques temps, et c'est là-bas on a amené les agents à avoir confiance dans notre monnaie et aussi à tenir l'économie de manière structurelle.
Alain, est-ce que vous pensez comme Maître Adrien qui évoquait tout à l'heure la situation politique qui a créé l'effet d'attentisme autour de politiques ou de détenteurs de dollars, même certains opérateurs, les plus grands opérateurs économiques du pays qui détiennent donc leur devise et leur dollar à la maison?
Bon, je ne peux pas aller dans les spéculations. Ce qui est vrai, on ne peut pas fonder une analyse économique sur base des rumeurs, sur base des spéculations. Ce qui est important, c'est qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de la monnaie sur le plan interne. Et cela est dû essentiellement par le fait que notre économie a été secouée par la crise mondiale. Aujourd'hui, nous importons plus alors que nos exportations ont baissé. Nous prenons le cas du marché de l'eau fou. Nous prenons le cas de besoins en termes d'investissement dans les grands travaux. Tous ces besoins-là exigent à ce que nous aurons des devises. Étant donné que nous faisons plus sortir l'argent par l'importation et que les exportations ont baissé, ça crée des déséquilibres naturellement. Nous avons des réserves de valeur qui étaient estimées à pratiquement 1 milliard de 100 millions. Et aujourd'hui, Paris va injecter 250 ou 300 millions de dollars. Ce qui sous-entend que notre matériel de devises n'a plus la même épaisseur. Ouais. Donc, quelque part, la crise est profonde et on doit dire la vérité à la population pour que celle-ci puisse avoir d'autres mécanismes. On doit ouvrir l'analyse, même aux scientifiques, ajouter la diversité pour que nous arrivions à avoir une idée plus large sur la situation. On est donc fait une question politique. Aujourd'hui, il s'agit de la survie de l'homme de l'État. Si on arrive à avoir ce que nous avons connu vers les années 90, l'hyperinflation, en tout cas, ça risque de mettre en mal même le processus de la démocratisation.
Merci beaucoup Alain, c'était consulté d'ailleurs des internautes qui nous a demandé si on peut peut-être plaider pour que les gouvernements puissent organiser des journées portes ouvertes ou des journées d'explication à la population pour au fait que cette dernière puisse se faire une idée sur la situation qui prévoit actuellement sur le plan économique dans notre pays au lieu de se cantonner à donner de résultats lors des réunions de la Troïka. Merci beaucoup. Léonard, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jean-Marie. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Voilà, vous venez de suivre Alain Bolodjoie qui a beaucoup plus martelé sur la crise mondiale qui n'a épargné aucune économie. Et dès lors que notre économie est extravertie, cela ne pouvait qu'être normal qu'on puisse connaître une telle crise. Alors, pour vous, par rapport à ce que disent certains observateurs, qu'aujourd'hui, le gouvernement a provoqué cette inflation pour, en fait, activer la production, stimuler la production, est-ce que vous y croyez?
pas ça m'étonne que les gens aient amené cette pensée-là. Mais disons à l'entrée que les grands problèmes qui nous frappent, peut-être qui interpellent tout le monde présentement là, c'est l'inflation qui sévit chaque jour, chaque minute qui passe, on doit passer. Chez les candidats, on constate directement que leur tableau ne fait que monter des chiffres. Mais avant d'arriver là, laissez-moi peut-être rappeler nos auditeurs et certains autres qui me suivent les éminents professeurs que ici nous sommes face à une politique conjoncturelle qui nous crée déjà des problèmes. Et il y a peu, les premiers ministres ont cessé de revenir sur la croissance et la stabilité des prix, il a évoqué, tout en oubliant que les instruments les plus secours aussi sont pour la croissance politique. Budgétaire, pour la stabilité des prix, c'est la politique monétaire jusqu'à là qui semble être contrainte par d'autres réalités, et de l'autre côté, on trouve la mondialisation. Dans cette mondialisation, l'élément clé, c'est la compétitivité. Depuis un temps, on évoque la mondialisation, c'est la compétitivité. Là, on tombe directement sur la structure de notre économie. Si vous regardez notre économie, la structure même, ce n'est plus un problème qu'on dira conjoncturel. La République démocratique du Congo, depuis un long moment, n'a pas une politique économique de taille, de sa taille. Regardez notre économie, quelle est la structure de notre entreprise ? Dans un district, comment elle se contente ? Elle se contente que du secteur primaire, que moi j'ai toujours considéré, c'est un secteur primitif. Nous vivons de ça. Et il suffirait de cette situation, quand il y a saut de l'autre côté sur le marché mondial, ça se répercute directement sur nous. Regardez tout ce qui nous entoure ici. La monnaie congolaise, c'est aujourd'hui qui s'interpelle tout le monde. On a cessé de décrier. Regardez vers le nord. Il y a les shillings burundais. Et si vous descendez encore plus loin, au Katanga, vous allez trouver, c'est les croises de la Tanzanie. Vous partez vers peut-être les Kaemba, vous allez trouver la monnaie angolaise. Vous êtes vers Bolobo, vous trouvez des francs CFA. Dans un pays où vous trouvez 4-5 monnaies différentes, et vous vous dites que vous allez vous contenter à changer la devise. Je ne pense pas que la question soit celle-là. Ici, nous nous concentrons à longueur de journée à suivre les ministres. Oui, c'est leur droit de déclarer ce qu'ils déclarent. Mais ils ne prennent pas les chiffres théoriques pour mettre la réalité. La réalité, c'est celle-là. L'économie congolaise est malade. Revenons à la hausse des prix. Est-ce que les prix même au Congo, c'est un paramètre qui est juste? Vous allez quitter à Mongafula chez moi, vous arrivez à Kinshasa, vous trouvez peut-être les paquets de biscuits que vous avez trouvés de l'autre côté à 100 francs, vous allez trouver à Gombe, ici c'est 150, vous êtes sur Zokadine, les mêmes paquets, vous êtes vendus dès pour 150. Donc vous voyez, c'est une économie qui est zigzaguée, qu'on peut dire.
Mais Léonard, nous sommes sous le régime du libéralisme économique, donc je crois que tout le monde milite pour une concurrence loyale.
Bon, je pense que le rôle aussi primaire de l'État en ce qui concerne les marchés, c'est de réguler. On ne peut pas oublier ça. Réguler les marchés, ça entre en compte aussi ces éléments-là. Le libéralisme ne veut pas dire laisser tout le monde faire ce qu'il veut. Qui fait plus de bénéfices, qui fait moins, et qui sera taxé plus pendant que tous ces commerçants ont un marché de valeur. Voyez un peu, c'est libéralisme. Quand on évoque le libéralisme, cela ne veut pas dire laisser celui qui est en face de vous vendre à 10 francs pendant que vous vendez à 150 francs. Et tous vous payez l'impôt au même pied. Et personne ne paye au-delà de l'autre.
Oui, il y a Alain qui a évoqué, c'est vrai, des mesures d'administration de la Banque mondiale, pardon, de la Banque centrale, oui. Et aussi c'était oui. Le problème de la BIAC, hein, avec la récapitalisation de la BIAC, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a une forte masse monétaire en circulation de francs congolais et puis les dollars en disparition.
Oui. Il a raison en partie, hein, pour la Banque centrale. Ben, je pouvais me dire même que la Banque centrale, jusqu'à pas des politiques monétaires d'État. Parce que si la Banque centrale avait des politiques monétaires, on ne pouvait pas arriver à évoquer les cas que je venais d'évoquer tantôt là. Des coins au nord, des shillings au sud, ainsi de suite. Tout cela revient à la Banque centrale. Mais dès lors que la Banque centrale n'a pas une politique monétaire, voyez là que nous sommes. Même incorporer la banque centrale aujourd'hui dans ce que nous connaissons, c'est juste l'interpréter et lui faire voir, messieurs, là que vous allez, ou madame, et les choses, messieurs, ne pas vous écrouler les maisons de là que vous venez. C'est dans cette situation que nous sommes. Alain a tout à fait raison. La BIAC, c'est une banque nationale. bon, que ce soit pour un parti particulier, étranger ou congolais, bien sûr, nous considérons que c'est national. Les investisseurs qui viennent, et on classait même la DAC comme la deuxième ou troisième banque au Congo. Mais tant que cela était au point de crash, les investisseurs se sont retirés. Ici, je suis face à un dossier où on dit les groupes Ecobank déclarent un bénéfice de plus de 60 millions. Pourquoi Ecobank se déclare comme ça? Mais ça doit impacter autrement pour que les investisseurs étrangers choisissent les banques régionales, entre Ecobank et d'autres banques. Ici, je ne sais que ça parce que c'est la banque qui donne les chiffres.
Est-ce que vous ne liez pas cela à l'effet produit par la situation politique actuelle? Comme le pense
c'est purement ça.
Oui.
C'est purement ça. Tant que nous vivons aussi une politique, j'ai bien dit, le gouvernement a droit à déclarer des chiffres. Il nous déclare bien les chiffres. Mais la réalité est celle-là, rien ne marche. Et encore, quand la politique ne marche pas, l'économie n'arrive pas même pas à venir. Hein. Les investisseurs ne peuvent pas venir injecter leurs capitaux ici tant qu'ils ne savent pas à quoi on doit s'attendre après décembre, après peut-être janvier. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est cet investisseur qui va accepter laisser 40 millions de francs congolais ou 40 milliards de dollars et dans une banque comme par exemple, pour ne citer que TMB, qui s'occupe à payer les employés et les fonctionnaires de l'État? C'est le pire, il se réserve un peu. Et là, la résistance va impacter sur toute l'économie.
Voilà. Merci beaucoup, Léon, et vous soulignez également cet effet d'attentisme que nous observons dans la situation qui prévaut actuellement sur le plan économique. Nous allons prendre Simon Zeloulou, qui est un syndicaliste, parce que nous évoquons la situation du fonctionnaire qui reçoit un salaire qui reste jusque-là inchangé, malgré toute cette fluctuation de la monnaie nationale. Monsieur Simon, vous êtes à Matadi, bonjour et bienvenue.
Oui, merci beaucoup, c'est Simon Siloulou, le secrétaire provincial du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, Sénécat français.
Est-ce que vous redoutez,
en fait, voilà.
Est-ce que vous redoutez, comme d'autres, que cette situation ait des retombées négatives sur le pouvoir d'achat et le panier de la ménagère, parce que les salaires des fonctionnaires restent changés?
Oui, c'est pourquoi je voulais partir d'un proverbe de chez nous qui dit que va nazundu malabu. C'est-à-dire, donner du vin à la grenouille ne suffit pas que ce qu'elle avait dit par le passé, d'ailleurs, l'avait déjà fait gonfler les yeux. Et tu veux encore aujourd'hui lui donner du vin. C'est pour dire que les enseignants, ça a des conséquences extrêmement négatives sur l'ensemble de sa vie. Et surtout sur l'ensemble de la formation lorsque nous prenons les enseignants. Parce que vous savez que la base fondamentale ou la base fondatrice d'un État, c'est la formation de la population de cet État par le gouvernement mis en place. Aujourd'hui, par exemple dans ma province, nous avons 38 319 enseignants qui sont sous-payés, mal payés d'ailleurs, et de ce nombre, il y a 4015 enseignants, certains ont fait 10 ans, 15 ans, qui n'ont jamais été payés et vivent de la prime des parents chômeurs sans emploi. Maintenant, avec cette dégradation de notre monnaie, nous allons encore rentrer l'année prochaine avec la prime, la modique prime des parents. Et cette dévaluation de francs congolais, vous imaginez combien maintenant on va fixer pour la prise en charge des parents. Et ça va faire souffrir. Aujourd'hui, je vous dis, le principe élémentaire précieux qui dit gouverner, c'est prévoir. Donc, cela veut dire, si un gouvernement ne sait pas prévoir, c'est qu'il n'en est pas un. Aujourd'hui, les salaires, pas même les salaires, parce que les enseignants n'ont pas de salaire, puisque tout ce qui est pris dans un salaire, ce que gagne l'enseignant n'est pas pris en compte. Donc c'est le domaine d'ailleurs le plus négligé.
Oui, est-ce que Simon, est-ce que vous craignez, comme les autres qui estiment que aujourd'hui avec la révision à la baisse du budget, ça risque réellement d'être compliqué. Ce que vous dites là, prévoir, faire face à cette crise, faire face à cette inflation, pour donner demain ou à l'avenir, disons un salaire un peu décent, un salaire qui répondra qui constituera un répondant à cette situation, ça serait pratiquement impossible.
Oui, c'est vraiment impossible parce que toute la nation, je vois, nous sommes 650 000 enseignants. S'il faut multiplier par 90 000, vous voyez déjà ce que ça donne, par 12 ce que ça donne. Mais je dis, le gouvernement se prévoit. Aujourd'hui, je vous dis, par exemple, dans ma province, 1 km², on a 0,7 enseignants. C'est-à-dire, il y a, malgré c'est trop, mais il y a encore besoin dans ces cadres. Alors, lorsqu'on a réduit les budgets, tel qu'on l'a fait, et qu'on laisse l'enseignant avec ses petits salaires, les conséquences seront directes sur la formation de l'enfant et sur l'avenir de demain. Nous risquerons de manquer des hommes formés et nous allons encore nous plonger dans une situation plus grave où nous allons faire appel aux Haïtiens, aux Américains, aux tout ça pour venir enseigner au Congo ce qui va encore coûter. Et il est temps que le gouvernement, parce que notre monnaie, je trouve qu'on dirait que ce sont des papiers habillés en monnaie, qui n'en est pas une. Parce que lorsque vous voyez notre monnaie, ça n'a pas un sous-bassement de soutènement. Déjà en 98, lorsqu'on avait créé cette monnaie, 1 dollar équivalait à 1 franc. Aujourd'hui, 18 ans après, 1 dollar, c'est déjà dans les 1 000 francs. Vous voyez ce déséquilibre. Il faut que les analystes économiques puissent analyser ça, pas de fait présent, mais qu'ils voient comment ces francs congolais a évolué de sa création en 1998 jusqu'à aujourd'hui. Nous partons de perte en perte. Et je vous dis, la rentrée scolaire, je trouve que le gouvernement Matata Ponyo doit faire beaucoup d'attention parce qu'il commence à nous donner l'impression, on dirait qu'il veut pousser les gens aux différentes révoltes constitutionnellement revendiquant leurs droits et envoyer les gens en grève. C'est ce qui va suivre parce que il y a déjà des sociétés RVM ou 7 mois, 8 mois, 9 mois d'impayement.
Est-ce que vous donnez raison à ceux qui comparent cette période à la période avant 90 ou encore après 90, après les deux pillages? On a connu pratiquement la fluctuation de la monnaie zaïroise à l'époque et aujourd'hui, est-ce que vous estimez que c'est pratiquement la même scène, le même scénario, le même film qui se reproduit?
Non, ce n'est pas le même film, mais là c'est plus grave. Parce que, à cette époque, même si il y avait des gens qui sortaient de travail lorsque leur société se fermait, aujourd'hui, le taux de chômage, lorsque vous le comparez à ceux de ces années-là, c'est plus grave. Donc, la situation sera plus grave. Les mécontentements sociaux seront très élevés parce que vous savez, aujourd'hui, le taux de chômage, et d'ailleurs, même la formation, la qualité n'y est pas. Le ministre de l'Éducation qui se déploie comme un diable dans un bénitier pour chercher la qualité, il n'a même pas de, on lui donne même pas de moyens conséquents. Aujourd'hui, il y a un autre problème qui se pose. Donc, la nation va reculer, je crois, de 40 ans en arrière. Il est temps que le gouvernement Matata Ponyo puisse dans leur profonde intelligence pour essayer de liquider cette crise qui s'annonce. Et voyons aussi le climat politique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Avec ce problème ici, on se demande s'il n'y a pas de comploteurs dans le gouvernement contre la nation. Parce que nous, enseignants, je ne vois pas les enseignants rentrer le
20 septembre. Merci beaucoup, Simon. Voilà pourquoi l'équipe de production de Parole aux auditeurs prévoit la semaine de l'indépendance, parler de l'indépendance économique pour voir un peu tous les contours, si il y a encore des défis à relever pour que la RDC accède à l'indépendance économique. Sylvain, vous êtes à Bounia, Maître Olivier à Guadeloupe, gardez la ligne. Nous reviendrons à vous d'un moment à l'autre pour annoncer d'ailleurs d'entamer la deuxième demi-heure de cette émission. Oh,
au Capitole, mercredi à 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit, et le samedi Megamix de 19h à minuit. Au Capitole Seaway, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sorts, des Congolais d'ici et d'ailleurs.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapitale.net.
Parole aux auditeurs, JRNGM.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Nous vous signalons que les débats s'étaient également sur notre page Facebook de Parole aux Auditeurs et également sur notre site radiookapi.net. Fleury Moudiangou de Kinshasa, vous êtes avec nous, vous nous avez écrit, vous avez dit, les musiciens ont chanté que Mosolo, Ezali, Elembo, Yangonde, Thermomètre, Yaekonomi, Yamboka. Nous devrons avoir une monnaie forte pour valoriser la nation. Or, quand les pays perdent l'équilibre, ça va de pair avec la monnaie. C'est que le cas de notre pays qui a visualisé l'incompétence de notre gouvernement. À cela, il est obligé de prendre des précautions pour renverser la tendance. Sinon, sans Armand Kondoli, la dépréciation du franc congolais est consécutive à la santé actuelle de l'économie congolaise et de la tension politique actuelle. Il ne faut pas nous attendre à un miracle. Sylvain Katala de Kananga, c'est à partir dont ces problèmes concernent le gouvernement congolais. Prenons l'exemple d'un tout petit pays au sud de notre pays, de notre continent, pardon, qui est l'Angola. Le prix de leur monnaie est d'abord élevé par rapport à la valeur de leur monnaie est d'abord élevée par rapport au dollar. Qu'il en soit ainsi au Congo, nous adressons nos demandes au gouvernement. Alain Bolodjoa de Kinshasa, le pire est à venir. Tous les instruments utilisés par les décideurs, tant politiques que monétaires, se sont avérés faibles, ce qui augure une crise plus profonde qui met déjà en mal l'équilibre macroéconomique et surtout l'embellie observée depuis quelques temps. Nous assistons de ce fait à un rétrécissement de la structure économique du pays au regard de la théorie des Caldors dans ce que l'on appelle usuellement le carré magique. Nous assistons dès lors à l'effondrement du château construit par le gouvernement congolais. Évariste Kamumbo de Shabunda, au sud Kivu. Les moteurs du Congo, qui est le gouvernement, est gravement malade. Selon mes analyses, notre gouvernement s'occupe à 10% pour toutes les affaires de la nation, y compris la parité de notre franc, mais 90% de leurs efforts se focalisent dans les efforts pour demeurer au pouvoir. Sylvain, vous êtes à Bounia, maître Olivier à Guadeloupe. Sylvain, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, merci pour m'avoir associé à cet échange, ce débat. Je commence d'abord à saluer les bienvenus auditeurs, donc à la personne du syndicaliste et des enseignants, puisqu'il a relevé un certain nombre d'éléments très importants. Ça veut dire qu'il faille partir d'une observation qu'en 1998, à l'entrée du président Laurent Kabila, un franc congolais égalait facilement un dollar. Et donc si nous étions restés dans l'optique de la gestion de l'économie à l'époque du Mouzé Laurent Kabila, aujourd'hui, nous devrions avancer d'une manière où un franc congolais devait aller vers 1,5 des dollars et ainsi de suite. Par le simple principe que 1 plus 1 est supérieur à 2. Déjà, tu as fait l'économie, mais comprends l'autre que je parle de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer tout de suite? Je ne voulais pas contredire tout cela que tu as parlé avant moi. Mais ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est qu'il ne faut pas aujourd'hui lancer des activités de nature à moraliser le peuple congolais. Comme ils ont demandé, il faut que le gouvernement puisse instaurer un système de portes ouvertes pour qu'on discute de la question de l'armement. Je dis non. Le problème ici, c'est un problème du comportement de l'homme congolais. Je suis économiste en formation. Je peux me poser une seule question sur tout de suite. On a mené 10 personnes pour qu'on vérifie dans leur poche. Vous verrez tant le franc congolais ou le dollar dans leur poche. Et si on vérifie tous les comptes ouverts dans différentes banques aujourd'hui, les comptes en dollars par rapport aux comptes à franc congolais, lesquels banques les deux supplantent? Je n'ai pas fait une étude, mais j'ai comme l'impression que si aujourd'hui je les marche, C'est plus qu'à un moment donné, le système monétaire et financier du Congo ne marchait pas. Nous avons suivi, d'ailleurs je dis presque un mois, selon ce radio, notre émission Parole de Thèse, le débat sur la question des finances, pas nationales et internationales. Il y a un ministère qui a relevé un point important, le dysfonctionnement du système financier congolais. Est-ce que la Banque centrale joue correctement son rôle? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte d'abord du rôle que doit jouer la banque dans le système financier monétaire congolais. Alors lorsque vous avez appris par ici, par là, que les banques commerciales ou les banques de dépôt qui tombent à des outils d'achat que ça a failli, qu'est-ce que c'est? Donc ça doit interpeller. Mais qu'est-ce que je dis? Je ne suis pas physiocrate comme les autres le passé, contrairement à ceux qui essayent de mettre l'accent sur l'arrêté financier. Mais je dis, quel est le comportement de notre économie? Il y a un auditeur aussi qui l'a géré. J'ai comme l'impression que notre économie est une économie de cahiers. Pour nous, les quatre grands secteurs de l'économie ne sont pas corrélés. Ça veut dire que c'est un secteur au secteur partenaire que ça existe aujourd'hui. On ne voit pas vraiment, n'est-ce pas, une corrélation hein, économique et financière digne de son nom. Et moi, je dis aujourd'hui, s'il y a diversification de l'économie, mais qui se limite au niveau du secteur primaire, on n'a encore rien fait. Parce qu'une économie normale voudrait que du secteur primaire, on arrive au secteur secondaire, du secteur secondaire, on arrive au secteur tertiaire, et ainsi de suite. Mais la répartition de la population congolaise, on a une population au secteur primaire et une autre directement au secteur tertiaire et quaternaire. Où est passé le secteur secondaire, le secteur unitaire de la force d'une économie? Pour doit transformer, je voudrais dire ici de manière simple, monsieur le journaliste. Et si je voulais interpeller les gestionnaires de ce pays, surtout le Premier ministre, qui a toujours des arguments économiques et financiers, quel est le niveau de notre production intérieure? Quel est le niveau de l'incidence de notre production sur le plan international? Puisqu'aujourd'hui, il est vrai que sur le plan national, nous sommes incapables même de subvenir à nos besoins alimentaires. Donc, nous regardons la production agricole, ça n'existe presque pas. Parce que quand le ministre fait une affaire particulière, il quitte le bureau. Et c'est plus que dans les alimentations. Mais pourquoi ce ministre n'a pas fait des charges d'alimentation pour se nourrir? Donc il y a un problème d'adéquation de l'OPV par rapport aux différents secteurs de l'économie. J'ai dit, où on oblige aux officiers de l'État qui ont les moyens de financement.
Oui, c'est bien. Mais
c'est développer les secteurs. Oui.
Oui, mais c'est comme si on évolue en contrario au regard des tout derniers résultats de FMI qui appréciait en fait le travail abattu par le gouvernement congolais au regard des critères quantitatifs et qualitatifs de notre économie.
Non, monsieur le journaliste, il faut savoir les yeux pesants et pesés aussi au même moment. Pourquoi? De quoi? Il faut calculer aux appréciations des institutions internationales. Vous ne savez pas pourquoi. C'est que les villes apprécient. Moi, j'ai toujours compris à un moment donné, on veut flatter un État, mais ce qui est vrai, on ne peut pas flatter les plats qu'on a mis devant les Congolais tout de suite. Nous sommes en plus de les métiers. Est-ce qu'on peut entrer dans les hôtels, dans les restaurants, pour vérifier ce que les Congolais mangent? Pour qu'on puisse évaluer tous les rapports produits sur la santé économique en RDC. Et pour moi, je me dis ceci, pour qu'on te couvre à des débats de publication des rapports et ainsi de suite, il faut que nous puissions regarder même à travers les 26 provinces d'un pays. Comment je répète? Je voudrais dire la fois passée, nous avons fait une étude dans la ville de Bouya. Nous avons trouvé noir et blanc, et difficilement un Congolais mange deux fois par jour. Et quel type d'aliment? Parce que c'est ça aussi le colis, c'est ça aussi la monnaie. Et donc je dis ici, il y a risque, comme vous l'avez déjà dit à l'introduction de cette émission, si je ne répète pas l'aspect financier monétaire, à commencer par la production nationale, une position qui doit comprendre tous les grands secteurs de la vie, de l'économie de notre pays, nous savons les risques d'aller vers, je ne sais pas, une inflation, une dévaluation, et je dirais même une démonétisation, puisque de 900 francs, nous sommes à 1000 francs, demain nous serons à 1200 francs, et à un moment donné, nous serons obligés de changer la monnaie. On a déjà cette expérience dans ce pays. Il faut pas que les gestionnaires de ce pays oublient cela.
Alors,
pourquoi les conseils aux uns aux autres?
Oui, parce qu'on y est, vous avez dit, vous êtes économiste en formation. La plus grande question aujourd'hui, nous avons vu par le passé, les gouvernements lancer une opération, en fait, une stratégie pour dédollariser l'économie de la RDC. Aujourd'hui, on a l'impression que le résultat n'est pas celui escompté.
Pour vous, quelle a été cette stratégie? La bonne stratégie, c'est d'abord que si l'ensemble de la RDC connaît rien, avec les monnaies étrangères. Rassurez-vous, c'est dans ce pays qu'il y a plus de 10 monnaies étrangères qui circulent. Non seulement les francs-congolais. Alors, nous, on vous dit, notre conseil dit, notre monnaie a le pouvoir libérateur, les francs-congolais. Donc, si nous voulons parler de la bancarisation, mais pas en termes de premier ministre, mais c'est ma tante que nous, que je respecte beaucoup, nous devons nous assurer que notre système bancaire fonctionne correctement. Est-ce qu'un congolais peut aujourd'hui, à travers ces 100 dollars, accepter d'aller vers les forex, les forex, ou soit des droits de change, pour transformer d'abord sa monnaie, sa devise étrangère, à la monnaie locale, c'est-à-dire le franc congolais, pour aller acheter, si ce comportement peut être intériorisé, à commencer par les plus responsables, puisque je vous ai dit, je me répète à conclusion, si on touche les poches des congolais aujourd'hui, 5-10, on trouvera même pour les dollars, et est seulement à l'état congolais. C'est le danger.
Merci beaucoup à Sylvain, vous l'avez dit comme votre prédécesseur, que c'est vrai, nos frontières sont tellement poreuses et aujourd'hui, les provinces frontalières consomment beaucoup plus de devises étrangères et le prédécesseur a parlé des quatre monnaies, vous vous êtes allé encore plus loin pour dire en réalité, il s'agit plus de 9 ou de 10 monnaies qui circulent, voilà, et il suffit seulement de faire un tour du côté des Kasséni par exemple, au niveau de Bounia et Ituri, vous verrez que le shilling ougandais est très 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 consommé par rapport au franc congolais, à Bolobo, vous avez les francs CFA, disons au Bas-Congo, à la frontière Lufu, il y a les Kwanza angolais et les Kwanza kenyans qui circulent à la frontière du Katanga. Bon, voilà, donc il y a beaucoup à faire dans cette affaire pour en fait inverser la situation. Maître Olivier, vous êtes à Guadeloupe, bonjour. Maître Olivier, vous êtes avec nous à Guadeloupe. Félicien, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Je voudrais un peu intervenir sur ce sujet-là.
Oui, allez-y, Félicien.
J'ai noté un peu que la Troïka dans notre pays n'est cesse que de parler de la croissance macroéconomique et qui n'a pas d'impact sur le peuple, sur le vécu quotidien du simple citoyen. Et je trouve que le Matata Antonio est l'élève fidèle de FMI et de la Banque mondiale, tel que Kenga Ngondo en son temps. Ils ont toujours tendance à satisfaire leurs parrains, qui les ont engagés naturellement au détriment du peuple pour lequel ils travaillent. Et quand je regarde encore l'économie de notre pays telle qu'elle est extravertie et qu'elle ne dépend que de l'extérieur, et cela a des conséquences. Et quelles sont ces conséquences? Je trouve que lorsque l'extérieur manque de confiance à notre pays, cette diminution de confiance causée par l'instabilité politique. Et on ne peut pas venir investir dans un pays où on n'est pas sûr de tirer les dividendes. Et ainsi donc, ça doit créer la diminution des devises dans le pays. Et je trouve encore quelque chose d'anormal. C'est que les entreprises de notre pays payent en dollars, en monnaie étrangère, au lieu de payer en monnaie locale. Donc, je trouve qu'ils donnent plus de valeur à la monnaie étrangère plus qu'à la monnaie locale. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, l'absence de la politique économique dans notre pays, qui n'est pas toujours convenable.
Oui, voilà, oui, Félicien, parce que vous avez dit, vous décriez comme vous fustigez comme les autres, voilà, la politique monétaire. Mais une grande question, aujourd'hui, il y a certains observateurs qui estiment que cette inflation que nous connaissons, cette crise, elle est provoquée par les gestionnaires du pays, et même pour stimuler la production locale.
Les gestionnaires, vraiment, sont les responsables numéro un. C'est pourquoi j'ai parlé de Kenga Ngondo, j'ai parlé de la comparaison entre Matata Antonio et Kenga Ngondo dans son temps. Kenga avait demandé à la population zaïroise de serrer les ceintures pour satisfaire exactement FMI et la Banque mondiale. Cela même si aujourd'hui, de manière personnelle, je nous parle de la croissance macroéconomique qui n'a pas d'impact sur le peuple.
Oui, si nous comparons les époques, à cette époque-là, on était en programme avec les institutions de Brackenwood, de Bottenwood, mais actuellement, c'est vrai, tous les sous-réserves des analystes et aussi réserves de ceux qui maîtrisent bien la question, on n'est pas vraiment en programme avec les FMI par rapport à l'économie de la RDC. C'est vrai que c'est discutable aujourd'hui de ce que vous venez de dire, Félicien, mais nous retenons qu'il y a certains auditeurs qui ont évoqué aussi la situation politique qui serait aussi à la base de cette situation.
Je peux déjà dire, parce qu'il y a l'instabilité politique. Et quand il y a l'instabilité politique dans un pays, tous les investisseurs ne peuvent pas vouloir alors venir investir. Ça, c'est un. Et de deux, et la circulation de la monnaie étrangère dans un pays montre bien que le pays n'est pas tellement indépendant. Il dépend de l'extérieur.
Merci beaucoup. Nous rappelons que la semaine prochaine, nous ferons une série d'émissions dans le cadre de la semaine de l'indépendance. Mais nous avons également, en tout cas, l'équipe de production de l'émission Parole aux auditeurs a prévu de parler 56 ans. Quels sont les défis qui restent pour l'indépendance économique. Didier, vous êtes à Kinshasa. Clovis Samboujimaï. Didier, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est votre avis?
Oui, presque mes prédécesseurs ont tout dit, mais je voudrais dire une chose, parce que nous continuons à parler, sans faire des propositions. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les Congolais que nous sommes, ou l'actuel président de la République, et les honorables députés qui nous écoutent, nous devons prendre une décision, alors une décision sérieuse. Laquelle ? C'est de mettre ce gouvernement et de mettre sur pied un gouvernement de crise ou de salut public. Parce que l'actuel gouvernement a bénéficié des conséquences positives du point d'achèvement.
Oui, Didier, s'il vous plaît,
oui.
Vous allez poursuivre. Oui. Mais laissez-nous quand même vous dire que les constituants de 2006 ont déjà pensé au mécanisme pour démettre un gouvernement. Je crois que c'est un travail qui est fait par le Parlement dans son deuxième volet de mission qui consiste à contrôler l'action du gouvernement. Je crois que c'est à ce niveau-là que tout est décidé si oui ou non de la démission d'un gouvernement. Voilà, donc je crois que nous devons laisser quand même à chacun faire son travail.
Oui, oui, nous voudrons dire, mais les honorables députés représentent le peuple congolais qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas bénéficié de toutes les dividendes dus au point d'achèvement. Les indices de développement humain sont au rouge au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'emploi. Vous comprenez, au niveau même des investissements nationaux, ça pose un problème. Au jour d'aujourd'hui, comme nous sommes dans une période de crise, donc les députés doivent comprendre que nous devons avoir un gouvernement de crise. Ce gouvernement a eu la largesse d'avoir tout l'argent possible. Donc ils sont habitués avec le luxe, avec le bonus qui s'est dégagé pendant toute cette période. Donc à cela, il faut les remplacer par d'autres personnes qui doivent s'assumer pour voir que le pays est en crise. Il faut des réformes efficaces, conséquentes et responsables pour faire tant soit peu à faire démarrer le pays.
Merci beaucoup Didier. Clovis, vous êtes à Boujibaï. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Radio Papi.
Quel est votre avis?
Mon avis est celui-ci, je prends en compte la dimension économique de notre pays, en considérant seulement en l'occurrence la situation de la monnaie nationale par rapport aux devises. Et pour moi, cette faute, je la trouve souvent à la banque qui est l'institution et qui est habilitée à gérer la monnaie. Pourquoi? Vous trouverez au Congo l'habitude qu'un Congolais lui-même détient les dollars, lui-même détient les francs congolais. Pourquoi? Les choses sont vendues en dollars au marché, il y a la possibilité que quelqu'un s'approprie parfois à 1 million de dollars dans la maison, et le dollar gagne paix dans l'économie. L'autre aussi le fait nommément, le dollar c'est réduit à l'économie. Et si ça va tellement créer la dépossession des francs congolais par rapport aux devises, la banque est qui est appelée à maîtriser la situation de la monnaie au Congo et ne travaille pas conformément à la loi. C'est des règles que toute devise doit être à la banque et non détenue dans les mains des individus. Non, non à jamais. On peut parfois dire 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, 5 dollars, 10 dollars, mais pas au-delà des 20 dollars. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Les dollars circulent dans les poches. C'est facile que quelqu'un qui était la RDF avec une somme parfois 2 millions de dollars, 2 milliards de dollars, il part avec ça en Angola, revenir. Et ça, ça a l'impact dans l'économie. On peut parler parfois de la chute des cours de matières premières, telles que le pétrole et d'autres. Et qui ont causé parfois la crise économique que nous connaissons aujourd'hui. Et on ne prend pas tant qu'on la production interne parfois, et qui peuvent, quoi, qui peut parfois prendre être plus comme un élément, ce n'est pas ça qu'on peut parfois considérer. Moi, la force, je l'attribue totalement à la banque. La banque n'a pas la maîtrise de la gestion de la monnaie au Congo.
Alors, Clovis, qu'est-ce qu'on proposera? Mis à part votre plaidoyer, de voir toutes les devises entrer à la banque, alors que faudrait encore faire pour qu'on puisse ne puisse que arrêter cette hémorragie pour nous éviter le pire d'ici au mois de septembre, comme le prévoit le prédit donc les certains analystes?
La banque doit procéder à l'achat des francs congolais, par la politique de l'achat des francs congolais. Lorsqu'il y a la dépossession des francs congolais, c'est-à-dire il y a beaucoup de biens des francs congolais par rapport aux devises que nous utilisons, et en l'occurrence les dollars. La banque doit mettre en pratique la politique d'achat des francs congolais pour que l'économie soit équilibrée. Le franc congolais et les dollars, il doit acheter pour qu'il puisse équilibrer et réduire le nombre de billets des francs congolais en circulation en économie. Et ça, pour qu'on puisse parvenir à atteindre l'objectif fixé. Sinon, au cas contraire, on peut se donner, on peut donner la faute au gouvernement qui ne produit rien, on peut imaginer tel qu'on peut imaginer là, mais la situation, lorsque la banque qui est, l'institution ne maîtrise pas ce qu'elle doit faire jusqu'à cette heure, ça serait impossible d'atteindre l'objectif fixé de la vie.
Merci beaucoup, Clovis, d'avoir appelé et surtout d'avoir rejoint les prédécesseurs dans cet échange citoyen. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez également participer à cette émission et en même temps que nous débattons sur les ondes des radios Capi. Ces débats se déroulent aussi sur notre page Facebook, également sur le net, www.radiocapi.net. Vous avez également la possibilité pour nous atteindre directement, composer les 081 890 63 15, et aussi la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos messages, Galamoumé, Jules, Regen, Grigoso, Maître Billy de Boutembo et Félicien de Tanganyika. On n'oublie pas Gracias Yembe de Bandundu Ville et Honoré Malumba Sela. On se retrouve juste après les flashs. Nous poursuivons avec vous, Jean de Dieu de Kikwit. Vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue. Jean de Dieu, vous êtes avec nous? Voilà, on prend plutôt Maître Omar qui est à Kinshasa. Maître Omar, bonjour et bienvenue.
Bonjour, Gilles Longuembe, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez suivi, disons, les prédécesseurs qui ont parlé avant vous. Et maintenant, que faut-il faire pour, empêcher l'évolution de cette, ou arrêter définitivement cette hémorragie qui pourrait nous amener à connaître toujours la même situation, l'inflation, cette crise d'ici au mois de septembre, comme le prédisent certains analystes économiques?
Merci beaucoup, JR, de la question. Le temps est un défaut. Je m'en vais, comme vous l'avez dit, à des solutions idoines. Mais premièrement, avant de passer aux solutions, il faut dire que on ne peut pas solutionner sans connaître les causes. Les amis ont évoqué diverses causes, mais moi je pense que parmi les causes, il y a aussi des problèmes de réglementation. Nous sommes un état de droit, même le domaine d'échange des dollars ou d'autres devises étrangères déréglementées. Et si vous interrogez l'histoire des échanges, vous allez vous rendre compte que l'État congolais a plus légiféré en termes de libéralisme monétaire. C'est ce qui a fait que toute personne aujourd'hui peut fixer les taux par rapport à ce qu'il veut. Et ce libéralisme monétaire fait en sorte que certains opérateurs économiques heureux en recherche de devises étrangères fixent des taux parallèles. En ce jour, si vous lisez la différente législation en matière d'échange, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus de nominalisme. Le ministre voudrait que le taux local puisse prévaloir. Premièrement, J.R. Lungembo, il faut qu'il y ait une réglementation sérieuse, qu'on puisse éviter.
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Omar, voilà, qu'on vient de perdre. Je crois que la réalisation pourrait nous aider à retrouver Omar, qui faisait déjà du reste de propositions. On va lire le message de Bomboula, Christelle, étudiant en G1 économie à l'UNIMBA. J'imagine que c'est l'université de Mbandaka. Je déplore par rapport à l'effet d'honorabilité des dollars dans le pays. Premièrement, si notre monnaie nationale n'a pas l'impact sur n'a pas d'impact, voilà, je crois que c'est cela qu'il voulait dire, sur les marchés d'échange, c'est nous-mêmes qui sommes à la base, parce que nous honorons d'autres monnaies par rapport à notre monnaie nationale, et aussi notre gouvernement doit prendre des décisions concernant la hausse de prix sur les marchés. Et si nous regardons chez nos voisins, le dollar n'a pas tellement de valeur. Le cas d'Angola, pourquoi toujours les Congolais doivent être distraits? On doit tout faire pour que finalement la solution soit trouvée. Les taux d'échange augmentent chaque année. Alors, ce qui prouve l'impuissance de la politique monétaire imprimée par le gouvernement. Honoré Malumba, cela marque les difficultés en fait du gouvernement auquel fait face le gouvernement congolais pour élever certains défis économiques. Hervé Delika Bakwanga, ma question, je voudrais bien la poser si vous avez l'invité. Qu'est-ce fait actuellement le gouvernement congolais pour empêcher cette inflation? Garcia Yembe de Bandundouville, nous sommes toujours en train de partir au désert avec ces gestionnaires qui prend raison des baisses de minéraux, alors que gouverner, c'est prévoir. S'ils veulent, ils peuvent faire quelque chose au bénéfice de la population. Alors, Doudou, vous nous avez rejoint, vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, M. Hier, bonjour aux auditeurs de la radio CAFU. Je voulais intervenir un peu tout petit peu parce que mes professeurs on a déjà presque tout dit. Moi, je voulais...
Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on améliore un peu la situation dans les jours à venir, pour éviter les pires d'ici le mois de septembre, comme le prédisent les analystes économiques?
Et certainement, c'est juste une question de la volonté politique. Parce que d'où émanent les décisions d'impulsion? Les décisions émanent du pouvoir central, du gouvernement. Lorsque l'autre va dire que c'est un problème de la banque centrale, non, c'est le gouvernement qui donne les ordres, c'est le gouvernement qui autorise. C'est une question seulement de la volonté politique. S'il y a circulation de dollars partout, chez les, toutes ces monnaies que vous dites là, c'est un problème seulement du gouvernement. Le gouvernement peut décider seulement plus que je suis avec ça et on met un service de contrôle rigoureux et tout va
passer. Mais Doudou, encore vos propos, c'est comme si vous appuyez ce qui soutient la thèse selon laquelle que cette inflation est provoquée par le gouvernement. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi comme les autres qu'il y a risque parce que nous avons une économie extravertie? Et c'est vrai, il y a cette histoire de la crise mondiale qui a touché les économies et nous ne pouvons que subir parce que le fait que dès lors que nous avons une économie extravertie, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un lien dans tout ça?
Non, ce n'est pas vraiment ça. Écoutez, M. Hier, je vais vous dire une chose. Vous savez, la politique, c'est un sphère de tromperie, c'est un jeu de dupes. Vous voyez, le monde international vit. C'est comme si le Congolais visait un problème de développement, mais que le monde international visait un problème aussi de litres, c'est tout. Ils sont en train de viser le bénéfice par rapport à eux, et nous visons le développement. Pensez-vous qu'il y a l'adéquation entre ces deux choses? Vous voyez?
Merci
à toi l'adéquation.
Merci beaucoup, Doudou. Alors, Maître Omar, on vous récupère parce que vous proposez tout à l'heure la réglementation monétaire. Maître Omar, vous êtes avec nous?
Merci, non.
Oui, allez-y.
Merci beaucoup, Gilles, de m'avoir établi.
Je disais la solution, je passe du temps passe par les nominalismes monétaires. Ça veut dire quoi? Si vous interrogez l'histoire de la réglementation bancaire en RDC, il y a eu des lois qui avaient prévu cette pratique. Cette pratique voudrait que toutes les transactions, les opérations se fassent en monnaie locale. Mais lorsqu'il s'agit d'importation et d'exportation, cela se fasse en dépit d'étrangères. Le souci, c'est de garder, de sauvegarder la souveraineté monétaire, l'un des attributs de notre indépendance. Deuxième chose, il faut qu'il y ait un contrôle autoritaire. Aujourd'hui, on a diversité des taux. Il y a des taux parallèles, il y a des taux officiels fixés par la banque. Cette situation ne favorise pas un développement économique. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un taux officiel fixé par la Banque centrale, tel que le veut les anciennes lois, parce que l'actuelle ne favorise pas une bonne implication locale. Il faut qu'il y ait un taux officiel fixé par la banque, discuter avec les opérateurs d'échange, et il faut qu'il y ait aussi un contrôle autoritaire. Parce que le souci, c'est de fixer un taux qui puisse satisfaire et les opérateurs économiques et les pouvoirs d'achat du peuple congolais. Le souci, comme nous l'avons dit, la monnaie est l'un des attributs qui garantit l'indépendance d'un État. Et lorsque la monnaie étrangère prévaut sur la monnaie locale, nous ne sommes plus indépendants. Et pour satisfaire tout le monde, pour répondre aux opératifs de la modernité de la communauté internationale avec la crise, il faudra, comme je l'ai dit, établir les nominalismes monétaires, faire en sorte que toutes les transactions au niveau interne se fassent en monnaie locale, mais en cas d'importation et d'exportation, qu'on les fasse en monnaie étrangère. Et des deux, qu'on ait fixé un taux officiel que tout le monde respectera en accord avec les opérateurs d'échange et qu'il y ait une commission de contrôle pour voir si le taux fixé est respecté par tout le monde. Je pense qu'en faisant ces deux solutions rapidement, on pourra trouver des solutions urgentes par rapport à ces problèmes qui dégradent, n'est-ce pas, le tissu économique et financier de notre pays.
Merci beaucoup, Maître Omar. On va prendre Amos de Bukavu. S'il souhaiterait également faire quelques propositions. Amos, vous nous avez déjà. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, JR. Bonjour à tout le peuple congolais qui nous suit à ce net moment.
Alors, c'est
d'abord
oui.
À saluer les analyses pertinentes de tous mes prédécesseurs qui ont démontré combien les Congolais continuent à vivre une situation calamiteuse, mais aussi une situation de honte. Mais moi, je me dis, en fait, c'est pas par rapport au cas que nous vivons aujourd'hui. Peut-on encore parler de la stabilité macroéconomique que le Premier ministre a toujours parlé? Parce que pour moi, nous disions que cette stabilité macroéconomique n'était absolument rien par rapport à la misère du peuple congolais. Parce que c'est une stratégie de vouloir peut-être continuer à piller l'argent du pays en disant non, stabilité macroéconomique. Et pourtant, rien ne se fait voir sur le terrain. Mais par rapport à mes analyses, moi, j'ai relevé des points. J'ai analysé cette question de deux manières. D'abord, c'est le plan économique. Vous allez comprendre, j'ai avec tous les auditeurs, que c'est une honte pour un État qui ne peut pas de l'extérieur en tout. Aujourd'hui, le Congo même importe le beignet, la tipda, le Congolais importe. Voilà pourquoi l'étranger doit toujours s'imposer en termes de monnaie pour ce qui est de notre monnaie locale. Du fait que tout ce que nous cherchons, que ce soit même, et comme je l'ai dit tantôt, le beignet, à Bukavu, les gens aillent acheter des beignets au Rwanda. Vous voyez combien de fois un pays qui vit dans une telle situation ne peut pas connaître de tels problèmes. Mais aussi, j'ai analysé cette question sur le point de vue politique. Le fait, la situation que connaît actuellement la RDC, moi je pense qu'il y a un professeur qui a évoqué le fait qu'on a parlé qu'il y a certains acteurs politiques dont leur compte serait gelé ou aurait des difficultés au niveau de l'étranger. Moi je pense que cette situation aussi peut nous créer la situation que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, les conséquences par rapport à cette situation, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, la ménagère connaît des difficultés de s'approvisionner pour ce qui est de première nécessité. Tout ce que nous cherchons aujourd'hui au marché, le prix a augmenté. Et vous allez comprendre que malheureusement, le salaire que touchait le fonctionnaire au niveau de la République n'a pas changé. C'est le gens qui touchait, disait, 90 000 francs à valeur de 100 dollars. Aujourd'hui, ces 90 000 francs ne valent plus 100 dollars. C'est déjà un problème sérieux. On dit aussi, les gens qui nous dirigent, mais par le fait qu'ils ont l'autorité ailleurs. Mais je pense que le peuple congolais doit comprendre déjà que ce sont des signes qui montrent la fin des régimes, les signes qui prouvent que réellement le régime en place est en train de plier les bagages pour laisser la République libre. Et j'espère bien que d'ici là, le peuple congolais aura des dirigeants qui vont comprendre réellement la souffrance de la population congolaise et qui vont tout faire, qui ne vont plus se baser sur les chiffres. Parce que souvent, ma personne ne nous parle que des chiffres, mais sur le terrain, vraiment, la situation est calamiteuse.
Voilà, merci beaucoup, Amos. On aimerait bien juste vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez que cette inflation est provoquée par les gestionnaires de l'économie nationale?
Juste une phrase. Gouverner, c'est prévoir, JR. Gouverner, c'est prévoir. Toute la situation que connaît aujourd'hui la RDC émane de l'incompétence de part de ces gens qui nous gouvernent aujourd'hui. Je pense qu'ils devaient directement plier les bagages et comprendre s'ils vont se jouer sur le plan JR.
Voilà, merci à Amos d'avoir appelé de Bukavu et merci à tous d'avoir contribué à la production de cette émission. À demain pour un autre débat sur les ondes de Radio Capi. Merci de votre fidélité à Radio Capi. L'actualité se poursuit sur la fréquence de la paix. À présent, je vous laisse suivre la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies avec Charles-Antoine Bambara, directeur de l'information publique et porte-parole de la MONUSCO.
Mesdames et messieurs, fidèles auditrices, auditeurs de Radio Capi, membres de la presse, bonjour et bienvenue à cette conférence hebdomadaire des Nations Unies.